totalement ce qui
se met. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci de suivre Parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage. Processus d'intégration de la médecine traditionnelle dans le système des soins de santé en RDC. Un projet de loi portant réglementation de l'exercice de cette médecine et un code de déontologie à l'attention des praticiens sont pour se faire en élaboration. Ainsi que le lancement, le 8 août dernier, du recensement de ces derniers sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que de la collection des données dans la ville de Kinshasa organisée par le programme national de promotion de la médecine traditionnelle et des plantes médecinales. Que pensez-vous du travail des tradipraticiens dans votre milieu? Nous en parlons avec Madame Micheline Kingombe, directeur du programme national de promotion de la médecine traditionnelle et des plantes médecinales. Titimpoutou, Nadine Foula, Jean-Claude Denciala sont à la réalisation de cette émission présentée par Pierrot et la Meji sous la supervision de Ben Kabamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meji.
Partant du processus d'intégration de la médecine traditionnelle dans les soins de santé en RDC, nous faisons le point avec vous qui êtes aussi bénéficiaire de services des tradipraticiens dans votre milieu. Que pensez-vous de leur travail? Ce qu'il faut aussi faire pour améliorer ce travail, c'est au centre de notre échange dans Parole aux auditeurs. Nous en parlons, comme je disais tout à l'heure, avec Madame Micheline Kingombe, directeur du programme national des promotions de la médecine traditionnelle et des plantes médicinales au ministère de la Santé. Madame Micheline, vous êtes avec nous, bonjour. Madame Micheline, bonjour. Voilà, on a des petits soucis avec notre invité tout à l'heure, on va la voir. Je rappelle encore le numéro pour intervenir en direct, 081 890 63 15, le numéro d'appel. Nous avons aussi les auditeurs qui ont réagi par la page Facebook des Paroles aux auditeurs, comme Evariste Ntumba qui est à Kananga au Kasai Occidental, qui dit ceci: la médecine traditionnelle en soi n'est pas dangereuse, mais les pratiquants ont toujours amené cela à des pratiques fétichistes, oubliant les règles établies par les ancêtres. Pour lui, il vous souhaite que les textes juridiques qui pourront être édictés vont permettre à mettre fin au charlatanat, mettre fin à la pratique de charlatans et ainsi revenir au respect des règles de cette médecine. Nous avons Ismaël qui est à Lubumbashi dans la province du Katanga. Bonjour Ismaël.
Bonjour Pierrot et la Meji.
Et nous dégageons ensemble, d'abord, nous faisons le point sur les travails de tradipraticiens dans votre milieu et vos propositions pour pouvoir améliorer ces travails. Qu'est-ce qui se passe à Lubumbashi?
Actuellement, ce qui se passe à Lubumbashi, vraiment, c'est une médecine qui prend actuellement l'ampleur. Parce que même les expatriés, nous avons les Chinois qui traitent et sont mieux. Nous, y compris, nous avons combiné cette médecine avec la médecine moderne. Nous voyons juste quand nous combinons cette médecine, ça donne un peu de résultats favorables. Cela n'empêche pas qu'il peut y avoir aussi des problèmes et des difficultés. Pourquoi? Parce que nous avons aussi ceux qui traitent malhonnêtement, soit ceux qui se disent, on les appelle actuellement bah, les fétichiers, en plus aussi des tradits modernes. Il n'y a pas vraiment la différence entre ces deux personnages. Là, il y a beaucoup de confusion. Soit les messieurs qui écrivent des banderoles, qui écrivent venez telle adresse, telle part, c'est vraiment catastrophique. Mais vraiment, ceux qui sont de l'air mieux, par exemple, ceux qui ont associé la médecine traditionnelle avec la médecine moderne, ça va de mieux. Personnellement, moi, je sois par exemple les kystes ovariens, les myomes, la hernie. C'est en quelques jours seulement, par exemple, les myomes, les kystes ovariens, c'est dans 3 jours. Et il n'y a pas question d'intervention. C'est là que nous voyons que ça a vraiment de l'ampleur. Nous, ce que nous demandons à ceux qui soignent aussi par la médecine traditionnelle, ils devaient soit aborder d'abord la médecine moderne. S'il s'agit des examens, on passe par les examens, puis après les examens, on diagnostique qu'il s'agit de telle ou telle maladie. Mais juste quand ils procèdent avec la tête sans savoir qu'est-ce qu'on va traiter, c'est ça ce qui est dit à beaucoup de difficultés, à beaucoup de problèmes. Maintenant, tel qu'il y a beaucoup de centres traditionnels, bon, avec les notes et tout, et en fonction aussi des ONGD, parce que nous travaillons en fonction ONGD, IPOPOM. Là, nous voyons que ça marchait, et ce que nous avons trouvé en premier lieu, j'étais formé à Kananga par la société italienne Kowe. Là où j'ai eu mon diplôme de la médecine traditionnelle, en tout, ça va mieux. Mais l'actuel, parce que les informations soit que nous auditionnons à la radio, ça ne donne pas vraiment le goût de la médecine. C'est ça ce qui était en vue de mon intervention.
Merci beaucoup, Ismaël. Vous-même, vous êtes dans cette pratique, vous avez été formé, vous avez un diplôme. Mais vous dites qu'il est la grande difficulté aujourd'hui, c'est le manque d'examen, le manque de diagnostics précis. Il serait mieux que les tradis praticiens commencent d'abord à passer par des examens au niveau de la médecine moderne pour déterminer quelle est la maladie, la personne a quelle maladie, et comme ça, ils pourront procéder au traitement. Plusieurs traitent à l'aveuglette, si on voudra dire ainsi, sans passer par les examens et préciser les diagnostics. Merci beaucoup, Ismaël. Vous êtes à Lubumbashi. Jean-Vincent, vous êtes à Likasi, dans la province du Katanga. Bonjour, Jean-Vincent. Jean-Vincent, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur
Giro. Nous faisons le point avec vous sur la médecine traditionnelle, disons, le tradit praticien dans votre milieu et ce qu'il faut faire pour améliorer leur travail. Vous êtes à l'ICACI, quel est votre point de vue?
Je voulais dire, comme mon prédécesseur, bien sûrement, la médecine traditionnelle a de l'avenir dans ce pays. Avoir les pathologies que nos tradits praticiens soignent, tels que les ascites, les éphantasites, la sinusite, la tuberculose en intra-réco. Sincèrement, si les pays pouvaient s'organiser autrement, la flore du Congo fournirait plus de devises que l'on croit en minéraux ou en autre chose. Est-il que l'organisation des tradits praticiens est tiraillée par-ci par-là, qu'il y a un peu des difficultés pour que chacun se spécialise à ce qu'il sache réellement, en quelque sorte, hein, ça va, mais c'est ça de l'avenir. Si les Congo pouvaient en tout cas s'organiser, en tout cas on peut avoir des devises, et tous ceux qui couraient à partir par là à l'étranger pour recevoir des soins, il y a des soins rassurants. Même le cas de prostate, si la médecine traditionnelle peut le traiter en un rien de temps, figurez-vous ce que ça peut faire. Alors, sincèrement, j'appuie que ça a de l'avenir. Et les pays s'organisent, il y a droit de devises en perspective de ce côté-là.
Merci beaucoup, Jean-Vincent. Vous dites qu'il faut qu'on s'organise au niveau de la RDC, surtout en ce qui concerne les recherches pour les plantes médicinales. Et vous souhaitez aussi qu'on puisse renforcer les recherches par rapport à ça. Il y a de l'avenir. Mais du côté des tradis praticiens, vous dites qu'ils ont beaucoup de difficultés à se spécialiser. Et dans un domaine, on trouve tous presque parlent de la même chose. S'ils parvenaient aussi à se spécialiser dans un domaine, c'est bien. Merci beaucoup. Nous avons déjà notre invité qui est en ligne. On va lui accorder la parole juste après avoir écouté Ernest qui nous appelle de Matadi dans la province de Bakongo. Bonjour Ernest.
Bonjour Pierrot.
Nous faisons le point sur le travail des tradis praticiens dans votre milieu et aussi les pistes et des solutions pour améliorer leur travail. On vous écoute Ernest.
Merci bien pour la question. Je crois que la médecine traditionnelle doit être protégée par les gouvernements congolais, parce que ça reflète même les acquis propres que nous avons de nos ancêtres. Nos ancêtres savaient que dans la forêt, il y a des plantes qui ont le pouvoir de guérir toutes les maladies que nous avons à la cité. Et lorsqu'on amène cette médecine traditionnelle vers le modernisme, donc on tombe dans les médecines modernes. Donc, on va effacer tous les aspects traditionnels. Moi, je crois qu'il fallait rester dans ce domaine traditionnel avec la connaissance traditionnelle. Lorsque vous allez commencer par faire des examens à l'hôpital et puis revenir sur l'option traditionnelle, on n'est plus dans la médecine traditionnelle ni dans la médecine moderne. C'est le métissage même des connaissances. Je crois que ça va dénaturer notre connaissance ancestrale. Moi, je suis neveu, j'avais un oncle qui avait cette possibilité de guérir avec des plantes. Mais même l'expérience même dramatique lorsque quelqu'un est fracturé au niveau de la jambe, on va prendre un coq encore fracturé sur un niveau et on va plâtrer les deux mains. Lorsque le coq fait des mouvements, 30 jours, 45 jours après, il y a le coq de cette fille marcher dans cette condition-là, vous allez voir qu'on va enlever les plâtres de tous côtés et l'homme revient normal. Donc ce sont des connaissances que nous avons perdues. Il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on puisse moderniser ces médecines d'une façon moderne. Mais ce qui est intéressant aussi, il y a trop de charlatans qui sont entrés dans ce domaine d'abord. Ils ne font que donner des produits sans pourtant répondre à la maladie. Surtout, toutes les maisons de traditions et de professionnels présentent les mêmes maladies. Faiblesse sexuelle, rhumatisme, difficulté de conception et tout. Donc parfois, les patients n'ont toujours pas de solution. C'est comme ça que je me dis, si on arrive à moderniser aveuglément, donc nous allons perdre nos connaissances ancestrales et nous avons effacé de cette même façon, de cette manière-là, notre culture africaine. Donc voilà ce que je pense.
Merci Ernest, je retiens trois choses. Vous pensez qu'il faut d'abord, vous proposez d'abord que l'État protège la médecine traditionnelle parce que c'est un acquis culturel, acquis des ancêtres, mais vous ne souhaitez pas qu'on puisse moderniser la médecine traditionnelle comme un auditeur a proposé, qu'on pouvait d'abord consulter, faire des examens et proposer les traitements traditionnels. Après, vous pensez que si on fait ça, on risque de dénaturer même le sens de la médecine traditionnelle et il faut aussi lutter contre les charlatans qui ternissent l'image de la médecine traditionnelle. Jean, vous gardez la ligne, le temps que notre invité puisse réagir, nous allons revenir à vous. Je rappelle encore le numéro de contact 081 890 63 15.
Parole aux auditeurs.
Madame Micheline Kingombe, vous êtes avec nous sur les antennes, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Avant peut-être de réagir aux préoccupations des auditeurs, hein, c'est une question d'ordre général, si je peux dire ainsi. Quelle est la place aujourd'hui de la médecine traditionnelle dans le système de santé en RDC?
La médecine traditionnelle occupe une place importante pour le ministère de la Santé, parce que l'OMS reconnaît que au moins 80% de la population sont soignés par la médecine traditionnelle. C'est ainsi que notre pays, qui est la République démocratique du Congo, a souscrit à plusieurs déclarations internationales, notamment la déclaration de Al-Malta en 1978 sur les soins de santé primaire et plusieurs d'autres. Mais le pays a souscrit aussi à la stratégie régionale de l'OMS qui recommande de promouvoir la médecine traditionnelle et d'assurer son intégration dans les systèmes de santé.
Mais il y a des auditeurs qui ont posé le problème de confusion qui règne peut-être dans les secteurs, hein, parce qu'ils voudraient savoir qui est praticien, qui s'occupe de la médecine naturelle. Voilà un peu ça. Il y en a même qui disent les uns sont des fétichistes. Au niveau du programme, comment vous catégorisez ceux qui pratiquent dans le domaine de la médecine traditionnelle?
Je veux dire que le ministère de la Santé, les gens doivent savoir que le gouvernement a une vision bien précise par rapport à la promotion et à l'organisation de la médecine traditionnelle. Donc c'est pourquoi il y a une ordonnance loi fixant les attributions des ministères qui a attribué au ministère de la Santé l'organisation et de la médecine traditionnelle et la coordination de la recherche sur les plantes médicinales. Donc, en réponse à notre stratégie régionale de l'OMS, qui est celle de promouvoir la médecine traditionnelle, le ministère de la Santé a créé le Programme national de promotion de la médecine traditionnelle, qui est un programme spécialisé qui a pour mission d'organiser ce secteur bien précis. Donc, le tradit praticien est bien géré par le ministère de la Santé. Oui, comme monsieur a dit, il y a un dérapage, c'est pas seulement dans ce secteur. Même quand on est organisé, il y a toujours quelques cas qui sont un peu à côté. Mais pour le ministère de la Santé, il organise, il a ce travail-là d'organiser cette médecine, de mettre en place des structures qui vont promouvoir et réglementer cette pratique. Notamment, la mise en place des personnes qui vont animer les structures des tradipraticiens. Et le actuellement, le premier ministère de la Santé, en réponse à cette stratégie, nous sommes en train de recenser. Il y a le ministre, son excellence, monsieur le ministre de la Santé publique, a lancé officiellement le recensement national des tradipraticiens. Et à Kinshasa, nous avons commencé avec la collecte de données. Donc, d'ici peu, le pays sera doté d'une banque de données sur tout ce qu'il y a comme données sur les tradipraticiens. En répondant à votre question, je voudrais que par rapport toujours à notre stratégie, l'OMS a bien défini les catégories. Donc, parmi les tradipraticiens, il y a les phytothérapeutes, comme on le dit, donc c'est ceux qui travaillent, utilisent les plantes. Il y a les rabouteux, comme il y a un auditeur a répondu là, ceux qui soignent les traumatismes. Il y a le spiritualiste, il y a l'accoucheur traditionnel, il y a l'exorciste. Donc, il y a plusieurs catégories bien déterminées. Et donc, c'est bien défini par la stratégie et le pays est obligé de promouvoir et d'organiser ce secteur-là.
On a écouté un auditeur de Lubumbashi, Ismaël. Il y a aussi Jean-Vincent Delicacy qui a souhaité qu'on puisse avoir aussi des formations. Est-ce qu'au niveau de la stratégie, y a-t-il aussi de programmes de formation, de renforcement des capacités des tradipraticiens?
Oui. Il y a des actes qui sont... Il y a une politique nationale. Nous avons des documents parce que il fallait d'abord aussi institutionnaliser cette médecine. Donc, trouver un cadre. Donc, il y a une politique nationale de la médecine traditionnelle et tous ces documents, nous sommes en train de les actualiser. Il y a un plan stratégique que nous avons actualisé dernièrement. Il y a eu un pré-atelier et nous aurons l'atelier de validation du plan stratégique 2013-2015 ce vendredi. Nous avons aussi il y a un atelier pour la validation des textes réglementaires qui existent, qui ont été élaborés aussi avec l'appui de l'OMS depuis 2006. Et maintenant, avec tout le contexte que nous avons de décentralisation, de la réforme, et nous avons actualisé ce document et nous sommes en train de finaliser avec les structures des tradipraticiens. Présentement, même dans mon bureau ici, il y a un groupe de tradis qui sont en train de... Ils sont en train d'être formés par rapport au recensement. Parce que dans notre programme de recensement, il y a des agents recenseurs qui sont des, parmi lesquels il y a des tradipraticiens. Il y a des guides qui accompagnent les agents recenseurs par rapport à toujours à l'identification des tradipraticiens qui les accompagnent. Ce sont des tradipraticiens. Donc, pour revenir à votre question, parmi les axes stratégiques défini par notre politique nationale, il y a notamment l'organisation de l'enseignement de la médecine traditionnelle dans les systèmes d'enseignement. C'est-à-dire, on pense même en plus des tradipraticiens aux professionnels de santé qui doivent aussi avoir cette formation-là pour comprendre et promouvoir cette collaboration. Voilà. Donc, les tradipraticiens ont déjà eu cette formation au ministère de la Santé, sur les soins de santé primaire. Vous avez vu que j'ai commencé par la déclaration d'Almalta qui parlait de la place du tradipraticien dans les soins de santé primaire.
Voilà, merci. On vous garde en ligne, on va écouter les auditeurs. Il y en a qui nous ont écrit à travers la page Facebook des Paroles aux auditeurs. On va aussi lire les messages, mais écoutez aussi Jean qui est à Kinshasa, Marcel qui est à Kisangani. Je rappelle encore que nous faisons le point sur le travail des tradipraticiens dans votre milieu et vos propositions, vous, auditeurs des Radio Capi, pour améliorer ce travail. 081-890-63-15, c'est le numéro d'appel. Élisée Amzé Loaté à Boutembo nous a écrit ceci. La médecine traditionnelle se porte bien ici chez nous, les tradipraticiens sont très nombreux, mais il y a les autres aussi, d'autres personnes les confondent aux charlatans qu'il faudrait combattre dans la profession. Mais ce que je déplore, c'est le fait qu'on puisse amener dans les hôpitaux le malade quand les cas se compliquent chez les tradipraticiens, mais plus par dans notre culture, les gens semblent rejeter les tradipraticiens, et pourtant c'est ça même la profession
profondeur de notre culture. Fils Kadiata dit ceci, c'est la pratique la plus efficace et rapide, mais à ne pas oublier qu'elle est aussi la plus risquante puisqu'elle se fait sans appareil pour déterminer et la maladie et surtout en ce qui concerne la posologie des substances qui sont administrées aux malades. François Futu Akananga Occidental dit ceci, les tradis praticiens se disent docteurs car pour eux ils sont capables de guérir des maladies telles que l'appendicite, une hernie, l'hypertension artérielle, voire même le VIH/SIDA. Ils administrent aux malades les substances non purifiées par des doses non calculées avec comme risque des maladies cardiovasculaires rénales. Alors ils posent la question de savoir si au niveau du ministère de la Santé il y a un programme qui s'occupe du contrôle des substances qui sont données aux malades par les tradis praticiens. Notre invité pourra répondre à cette question-là. Il est même parmi les questions clés de notre émission. Jean, vous êtes à Kinshasa. Et Marcel, à Kisangani, en province orientale. On va revenir à vous pour votre point de vue, mais aussi votre proposition sur l'amélioration du travail des tradis praticiens en RDC.
Parole aux auditeurs.
Jean, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour parents auditeurs, je salue l'invité.
Merci, vous avez suivi notre problématique. Nous faisons le point sur le travail dans notre milieu, mais aussi les pistes et les solutions pour améliorer ce travail-là de tradis praticien. On vous écoute, Jean.
Ok, merci de m'avoir accordé la parole. J'ai constaté qu'ici, à Kinshasa, quelque part, il y a la clochardisation de la médecine traditionnelle. Pourquoi je dis ça? Parce que vous vous promenez peut-être dans certains quartiers, dans certains avenues, vous allez trouver un traduit praticien qui installe ses produits par terre et vous trouvez curieusement un attroupement de gens qui sont en train de suivre les enseignements par rapport aux produits qu'il a exposés là-bas. Vous avez remarqué que non, un produit qui peut traiter plus de 5-10 maladies à la fois. Je ne sais pas comment ces gens s'y prennent. Pour que, et parfois, les gens aussi achètent les médicaments. Alors maintenant, le problème, c'est que nous avons la difficulté, les tradis praticiens ont la difficulté de dosage de leurs médicaments quand ils traitent un cas quelconque. Mm-hmm. Je ne sais pas quelle dose spécifique est donnée aux malades. Et souvent, ça amène à des intoxications, parfois qui conduisent à la mort. Bon. Maintenant, je voulais poser une question à l'université. Peut-être on l'a déjà fait, la formation concrète des tradis praticiens, parce que j'ai un cas spécifique, il y a un frère qui est gradué en commercial, mais qui a ouvert un centre tradis moderne, disons, parce que là, il a une machine, il y a un scanner, où il traite sérieusement les gens. Et il arrive aussi à guérir pas mal de personnes. Mais il n'a pas une formation, à mon avis, sur la médecine traditionnelle. Mais il commence déjà à apprendre quelque chose sur les feuilles, les racines, quelque chose. Et quand vous venez, vous payez 5000 fois et puis vous traitez très bien. Alors, des personnes comme ça qui n'ont pas eu, bon, pas seulement la formation académique, mais une formation un peu traditionnelle, un peu de la médecine. Sont-ils autorisés par notre État à traiter les gens? Alors, parce que souvent aussi, il y a d'autres personnes qui y vont, mais quand ça ne tient pas, on recourt à la médecine moderne. Mm-hmm. Alors, maintenant, je propose ceci, que notre État puisse créer un regroupement, même si l'invité l'a déjà dit, mais on ne sent pas ça, un regroupement fort de qui? Des tradis patriciens. On peut même décrire leur centre, parce que jusque-là, moi, je ne vois pas encore à Kinshasa un centre spécifique reconnu officiellement par l'État, que ça, ici, c'est spécifiquement pour la médecine traditionnelle.
Voilà, si on peut résumer, vous posez un problème, vous pensez qu'il y a d'abord un problème, c'est la conservation des produits, les expositions qui posent problème, et vous avez voulu qu'on demande à notre
être invité si vous avez donné l'exemple de quelqu'un qui a fait les études commerciales mais qui a ouvert un centre de la médecine traditionnelle avec un scanner et des appareils, il soigne, il se pose un problème de la formation mais aussi de l'autorisation à prester, qui en principe doit prester comme tradit praticien, mais aussi vous posez la question de savoir s'il y a une association qui existe, un regroupement de tradit praticiens pour sentir leur présence sur le terrain. Merci beaucoup, c'est ça ce qu'on peut retenir de votre intervention. Marcel, vous êtes à Kisangani, en province orientale, bonjour.
Voilà, bonjour à tous les auditeurs de Radio Papi.
Mais Marcel, on a des petits soucis avec votre ligne téléphonique, si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, parce que là on vous suit d'une manière entrecoupée, on vous écoute.
Ok, mais là ça va?
Non, ça, on a des petits soucis. On va revenir à vous. La réalisation va voir comment améliorer la ligne. Il est temps d'accorder la parole à notre invité, Madame Micheline Kingombe. Vous avez suivi l'auditeur de tout à l'heure, mais aussi les messages que nous avons lus. On peut dire que les préoccupations sont presque les mêmes. Hein. Mais il y a la question par rapport aux substances. Y a-t-il un contrôle sur les substances qu'administrent les tradis praticiens, leur conservation? Et notre ami de Kinshasa a voulu savoir s'il y a une autorisation pour que quelqu'un puisse se prester dans ces domaines et aussi par rapport à leur association ou leur regroupement.
Ok, je préfère commencer d'abord par vous donner la définition que l'OMS donne sur le tradit praticien.
Mm-hmm.
Comme ça on sait, ensemble on pourra conclure, voir qui est le tradit praticien.
Ok.
Je lis, le tradit praticien est une personne reconnue par la communauté où elle vit, comme apte à fournir des soins de santé, en se servant des produits végétaux, animaux ou minéraux, ainsi que certaines méthodes basées sur le contexte socio-culturel et religieux. Son action est basée sur les connaissances, attitudes et croyances qui prédominent dans la communauté en ce qui concerne le bien-être physique, mental et social et les causes des maladies et des invalidités. Donc, je pense que si je résume, le tradit praticien, c'est quelqu'un qui est reconnu par la communauté.
Oui.
C'est pour dire que il a des connaissances acquises de génération en génération. Il prend de sa culture. Donc, dans notre pays, et dans plusieurs pays encore, il n'y a pas encore cette formation. Ce sont des connaissances acquises. Vous avez un grand-père, je prends par exemple le rabouteur, celui qui soigne les traumatismes. Il vous dit, écoutez, ça nous avons en famille, et il se dit, bon, tel enfant, j'ai choisi pour lui léguer ses connaissances.
Oui.
De la même façon, une recette. Je pense que c'est pas seulement des tradis. Si on regarde bien, même dans les ménages, on arrivera même à faire même des enquêtes sur ça. Donc, de par rapport à nos cultures,
oui.
Il y a des familles qui ont toujours quelque chose à préserver par rapport à leur savoir traditionnel, par rapport aux soins. C'est cela le tradit praticien. Donc ici, on ne demande pas que ça soit une formation. La personne qui voit, il sait déceler que là, par exemple, c'est le masque, par exemple, une plaie là, comme il y a un papa qui plusieurs qui soignent. Mais il y va parce qu'il a ce savoir-là traditionnel. C'est pourquoi vous voyez que même dans nos documents de politique, dans les actes, nous devons protéger le savoir traditionnel. Le savoir traditionnel, ça ne demande pas d'aller à l'école, monsieur.
Okay.
Je crois un biologiste, ou nous tous, quand nous allons acheter les champignons, par exemple, personne ne va au laboratoire pour essayer de commencer à doser les champignons qu'on a achetés. On se fie aux ramasseurs. Parce qu'on sait qu'ils ont un savoir qui leur permet d'identifier que ça, c'est le bon. Ok.
Okay.
Si on prend même sur terrain, les espèces par rapport aux plantes, c'est tellement rapproché que c'est pas avec comme ça, quelqu'un qui n'est pas connaisseur, vous pouvez facilement vous tromper. Ça a été l'objet même de mort, même en Europe, sur une plante.
Oui.
Ok. Alors, en Chine et tout. Donc, le ramasseur, le savoir traditionnel est très important. Comment nos ramasseurs, qu'on appelle les herboristes par exemple, ils arrivent à prendre telle plante, pas l'autre? Et c'est pas tout le monde qui a ce savoir-là.
Okay.
Les gens que vous voyez vendre, ou même plusieurs tradis praticiens, Si vous voulez vous les interviewer, c'est pas tout le monde qui va ramasser. C'est pas tout le monde qui va cueillir. Il y a d'autres qui sont là seulement pour vendre ou bien acheter. Donc, ce n'est pas un problème d'études, par exemple, pour ça.
Mm-hmm.
C'est pas question d'études. Il connaît là ce savoir. Sûrement, on lui a dit peut-être que cette plante, on la trouve toujours à côté d'un palmier, à côté d'une cour d'eau, ou bien jamais elle peut se retrouver à tel endroit. Donc, celui-là qui a ce savoir, il sait comment prendre ça. Donc, c'est pas le problème d'études, d'avoir été à l'école.
Mmh.
Mais ça n'empêche pas qu'on les forme.
Oui.
Mmh.
Oui,
par rapport à leur pratique, nous sommes là, c'est pour ça que le ministère travaille. On appuie les tradis. On doit les aider dans la prise en charge. Nous avons des cas pour lesquels nous avons présenté l'année passée.
Oui.
Des tradis par rapport à la prise en charge du VIH, de la prostate et d'autres cas. Donc, nous sommes là pour les accompagner. C'est-à-dire, on doit faire la promotion de cette collaboration. C'est très important.
Mm-hmm.
Si aujourd'hui, les gens qui vous prennent des médicaments qui viennent d'autres continents, d'autres pays, on arrive à les mettre au point et vendre, c'est parce que le scientifique s'est rapproché de... Il y a une collaboration.
Mm-hmm.
Donc, on ne peut jamais prendre quelque chose qui n'est pas prouvé scientifiquement et le mettre à la disposition, par exemple, et d'autoriser la mise sur le marché.
Ouais.
Mais nous savons que le traditionnel a toujours soigné.
Okay.
Il y a des critères.
Oui.
Par exemple, on dit, les gens, une plante qui a une recette qui a toujours été utilisée, qui a fait ses preuves. Donc on ne peut pas dire qu'il a tué. Vous comprenez?
Okay.
Mais nous devons les accompagner pour que, la qualité soit assuré. Et c'est ça le travail du ministère, et c'est ça le travail aussi des associations, parce que par rapport à la définition de l'OMS, le tradit, il doit pas être seul, parce que c'est la communauté qui le désigne. Donc, il doit travailler en association.
Voilà,
il
ne
peut pas travailler en électron libre.
Merci.
Mais si je passe à l'autre question par rapport au tradit moderne, ça n'existe pas. Vous avez eu la définition du tradit praticien.
Oui.
Et celui qui vient utiliser l'appareil pour autre chose, il n'est pas tradit praticien.
Voilà. Ok, merci.
Là, il faut lui donner une autre catégorie et on va voir ce que ça a. Il n'est pas tradit praticien.
Ok.
Le tradit a ses connaissances. Et nous l'accompagnons, nous l'organisons.
Voilà, on va revenir à vous, madame, le temps d'écouter encore les auditeurs. Nous avons Théophile qui est à Kananga, au Kassa Occidental, les gens des dieux qui nous appellent de Bruxelles, je crois bien, en Belgique. On va aussi leur donner la parole et lire encore quelques messages des auditeurs concernant ce qui doit être fait pour améliorer le travail des tradis praticiens.
Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre au service de la Radio de la Paix.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Franck Mboma dit ceci, il n'est pas question de laisser cette pratique dans nos villes. Il faut que l'État puisse réglementer, par exemple, obliger les tradis praticiens à avoir des adresses fixes et présentables. De cette manière, on pourra contrôler les mesures d'asepsie qu'ils utilisent. Franklin Kamoye à Lubumbashi, la médecine traditionnelle ne tue pas malgré qu'il y a beaucoup de fausseurs et escrocs, tandis que la médecine moderne, pour lui, il pense qu'elle est dangereuse parce que la plupart, il y a aussi des charlatans et des gens qui font aussi des mauvaises pratiques dans la médecine moderne, comme cela se passe au niveau de la médecine traditionnelle. Théophile, vous êtes à Kananga, au Kasaï Occidental, bonjour.
Bonjour Pierrot et bonjour aux auditeurs de Radio, ainsi qu'à la madame, notre...
Mais on a des petits soucis avec votre ligne téléphonique, Théophile, mais quand même vous avez suivi les uns et les autres, quel est votre point de vue?
En tout cas, je suis très rassuré. L'application de madame, elle a bien cerné le problème. Parce que la médecine traditionnelle, c'est quoi? La médecine traditionnelle, c'est une médecine qui se transmet de père au fils, de grand-père au petit. Ce n'est pas une médecine qu'on doit apprendre à l'école. Donc, à mon point de vue, fait que nous pouvons avoir des plans, pouvoir avoir des connaissances. Il se fait qu'on peut manquer les moyens financiers, l'encadrement de l'État, l'encadrement du ministère de la Santé est vraiment d'une grande difficulté pour les tradis.
Merci beaucoup Théophile, oui, parce que là on a des petits soucis, vous sortez entrecoupé, mais j'ai quand même retenu que vous avez salué les interventions de notre invité. Vous avez dit que tout a été bien expliqué. On ne peut pas aller à l'école aujourd'hui dès que je vais apprendre la médecine traditionnelle à l'école. Ce sont les connaissances qui se transmettent de père en fils selon votre intervention. Mais vous dites que plutôt ce qui nous manque, c'est la promotion. Il faut plus de promotion, plus de moyens et plus d'encadrement des tradis praticiens au niveau du ministère de la Santé. C'est ce que notre invité a continué à expliquer. Malheureusement, votre ligne téléphonique pose des problèmes. Nous quittons la RDC pour la Belgique et Jean de Dieu. Vous êtes avec nous en direct. Bonjour.
Bonjour, M. Pierrot.
Vous avez suivi, je crois bien, les uns et les autres. Nous faisons le point sur la médecine traditionnelle dans notre société et comment la promouvoir, comment améliorer cette médecine-là. Vous avez suivi les uns et les autres. Quelle est votre proposition?
Oui, Pierrot, avant de commencer, je dis merci à l'invité, mais je dois parler ici comme un spécialiste. Moi, je suis un systématicien botaniste.
Okay.
C'est-à-dire, dans le cadre les plantes médicinales, j'ai une étude qu'on appelle ethnobotanique, c'est-à-dire la relation qui existe entre les ethnies et les plantes.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, les ethnies ont développé les mécanismes, les plantes à certains systèmes, soit les fournis, tout ça, c'est qu'ils ont voyé que c'était nécessaire pour guérir ou bien être porteur pour la consommation, ainsi de suite. Alors, actuellement, le problème de la médecine traditionnelle chez nous n'est pas bien domestimaté. Parce que nous qui réfléchissons, nous qui étudions des plantes, quand nous faisons les inventaires des plantes, nous travaillons avec des gardes du parc et les pygmées, tout ça, on leur demande toujours l'importance de certaines plantes. C'est-à-dire qu'on a toujours des stratégies, c'est-à-dire des questionnaires qui permettent à l'air posé et il nous donne l'usage. C'est-à-dire, on suppose qu'une plante qui est en majoritairement donnée ou bien indiquée comme médicinale ou bien alimentée, ainsi de suite, est considérée comme elle est vraie. Mais le problème chez nous aussi, c'est le problème de la toxication et le problème des remèdes.
Mm-hmm.
Parfois, quand on nous donne ces remèdes-là, nous ne savons pas quelle est la quantité précise comme ça se fait en médecine moderne. Alors, en bref, je peux dire que c'est en nous et à l'État congolais de mettre des moyens et des connaissances scientifiques qui peuvent permettre à bien gérer ces ressources-là. Parce que ce sont des bonnes informations que nous recueillons.
Mm-hmm.
Avant l'apparition, ou bien avant l'arrivée de l'homme blanc en Afrique ou bien au Congo, nos ancêtres utilisaient les plantes médicinales. Et on dit qu'à leur époque, ils faisaient longtemps, leur vie était très longue par rapport à notre vie actuelle. Parce qu'ils savaient comment se prévenir. Alors, se prévenir, c'était de cette manière-là partie des plantes médicinales. C'est-à-dire, nous ne savons pas comment est-ce que, actuellement, je peux dire en bref que si nous mettons cette connaissance en œuvre et nous favorisons, nous faisons comme les Chinois. Aujourd'hui, la médecine chinoise, qu'on dit moderne et traditionnelle, est devenue très évoluée par rapport à la nôtre, parce que la nôtre est presque minimisée et la nôtre est presque déconsidérée. Alors, c'est nous aussi de les favoriser d'une manière aussi de faire l'implantation de ces plantes-là et de faire des arboretums, c'est-à-dire des forêts, une petite forêt qu'on peut mettre par exemple ces plantes-là qui sont bien documentées, qui sont bien testées. C'est aussi à nous les botanistes et les pharmaciens de faire des analyses, soit la toxication, ainsi de suite. Cela va permettre de développer notre médecine traditionnelle. En vrai dit, je ne peux pas accepter les gens qui disent que la médecine traditionnelle n'est pas étudiée. C'est une branche même de l'étude botanique qu'on appelle ethnobotanique, comme je viens d'expliquer à mon introduction.
Merci beaucoup Jean Desdieux, c'est important, vous êtes chercheur. Merci de vos contributions dans cette émission Parole aux auditeurs. Vous avez dit qu'il faut documenter aujourd'hui en ce qui concerne les plantes médicinales, il faut des recherches, il faut les documenter, il faut aussi des moyens pour avoir des petites forêts où on peut retrouver ces plantes et faire la promotion de cette médecine-là, c'est mettre ensemble vous, les botanistes, les pharmaciens, et voir comment on doit aider notre médecine à aller de l'avant, la médecine traditionnelle à aller de l'avant. Merci beaucoup Jean Desdieux pour cette intervention. Bienvenue, vous êtes à Bounia en province orientale. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, monsieur Pierrot.
Mm-hmm. et vous avez suivi les uns et les autres. Parlez-nous un peu de la médecine traditionnelle à Bounia et les efforts qui sont fournis pour l'améliorer.
Merci de m'avoir vraiment accordé la parole, mais aussi de m'avoir associé à cette émission. D'abord, je remercie je félicite Radio Capi d'avoir choisi ce sujet. Effectivement, le sujet à Bounia, vraiment, cette pratique, elle est aussi à la une. Il y a d'ouverture de gauche à droite de cette pratique de la médecine traditionnelle. Mais ce que je peux souligner par rapport au sujet du jour, en est que, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore attendu des doléances de la population de la ville de Bounia par rapport à la déception de cette pratique. Mm-hmm. Au contraire, il y a d'encouragement, il y a la population qui arrive à encourager cette pratique parce que ça donne vraiment des bons fruits par rapport aussi à d'autres pratiques modernes. Il y a certains témoignages que nous avons reçus même la semaine passée à la radio parce qu'il y a certains pratiquants, dont les personnes qui travaillent dans ces domaines, quelquefois passent l'émission à la radio et il y a des témoignages qui se donnent par la population en disant qu'ils étaient en train de souffrir de telles maladies, mais après avoir reçu les médicaments dans cette pratique-là médicinale, traditionnelle, il y a un changement, raison pour laquelle vraiment jusqu'à présent nous n'avons pas encore attendu des doléances négatives par rapport à ce domaine. Donc nous encourageons et que cette pratique puisse aller cette pratique puisse évoluer dans le bon sens. Dans la même perspective, je peux déjà me lancer dans la suggestion.
Allez-y rapidement.
Dans la suggestion au gouvernement congolais de bien financer ces domaines, de bien lui doter des ressources nécessaires en fait d'encourager les personnes travaillant dans ces domaines parce que selon les revendications, les rapports, les comptes rendus de la population qui reçoit bien belle ces médicaments, vraiment, il n'y a pas tellement de déception.
Merci beaucoup, bienvenue, un bon témoignage à Bounia, et vous souhaitez même d'ailleurs qu'au niveau du pouvoir public, au niveau du ministère de la Santé, qu'on puisse encourager, financer et donner des ressources nécessaires à la médecine traditionnelle pour voir comment elle peut aller de l'avant et continuer à aider la population. Alain Zawadi qui nous écrit des Kampala en Ouganda dit ceci: ici les gens suivent leur tradition de l'époque, ils se font soigner d'une manière traditionnelle, nombreux d'ailleurs, et beaucoup de personnes aussi, des fois ils arrivent à ne pas fréquenter la médecine moderne. Serge Katawa qui est à Lubumbashi: la médecine traditionnelle a beaucoup d'importance car elle guérit beaucoup de maladies des fois que la médecine moderne ne parvient pas à guérir, mais la médecine traditionnelle est tellement défavorisée, on la considère comme la sorcellerie pure et simple. Nous demandons l'égalité totale sur tout le plan. Et Patrick, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot et la Mingi. Bonjour aussi à madame l'invité, ainsi que tous les auditeurs de la l'émission Parole aux auditeurs.
On vous écoute, merci. Patrick, oui, par rapport
merci
à la promotion de la médecine traditionnelle.
Merci de m'avoir accordé cette opportunité. Et je voulais juste aussi essayer aussi de contribuer avec les analyses. La médecine traditionnelle, vraiment, elle est très importante dans le sens où ça aide plusieurs personnes. Parce que, par exemple, les gens qui sont au village, c'est très difficile de trouver directement les moyens nécessaires en cas d'une grave maladie. Mais ils se retrouvent facilement. Maintenant, je voulais juste poser une simple question à madame l'invité qu'elle puisse essayer un peu de m'éclaircir. Parce que maintenant, il y a d'autres, les soi-disant fétichés. Par exemple, ici à Lubumbashi, on les appelle les moufoum, dans le sens où quelqu'un peut avoir, ça peut être un problème d'une maladie spirituelle concerne même la famille comme ça, mais on amène quelqu'un là-bas, et les soi-disant médecins là, ils commencent à prophétiser que non, telle maladie provient de tel endroit, maintenant ils donnent même quelques racines là, et on fait les constats, quelqu'un directement il se rétablit. Ça, c'est le cas maintenant des fétiches ou bien c'est toujours des médecines traditionnelles. Merci beaucoup.
Merci Patrick. Vous êtes à Lubumbashi, c'est une bonne question. Quelqu'un, c'est parmi les catégories de ce qu'on peut appeler les spiritualistes, ils pratiquent, si on peut utiliser les termes, le spiritisme, et après ils donnent des racines, la personne est guérie. Vous demandez si on peut aussi les appeler les tradis praticiens. Mais si vous avez suivi la définition donnée par notre invité, vous aurez compris directement dans quelle catégorie il peut se retrouver, ce que ça veut dire être appelé en tant que praticien. Nous accordons la parole directement à notre invitée, Madame Micheline. Vous avez suivi encore les auditeurs. Cette fois, je peux regrouper leurs interventions. La promotion, on a beaucoup insisté sur ça. Y a-t-il aussi le programme de sensibilisation auprès de la population? Vous avez dit, bien sûr, qu'ils sont les managers de la communauté, mais est-ce qu'il y a aussi un programme de sensibilisation auprès de la communauté sur de la population sur le rôle de la médecine traditionnelle? Mais il y a aussi notre ami Jean Dédieu de Belgique qui a beaucoup insisté, lui qui est botaniste, sur la collaboration entre les pharmaciens, les botanistes pour documenter les plantes médicinales et avoir aussi même des petites forêts comme ça, des plantes médicinales pour faire la promotion de ces plantes, madame.
Merci monsieur, on va y aller progressivement parce que vous avez posé plusieurs questions à la fois. Je commence par remercier d'abord monsieur le botaniste pour sa contribution. Et je peux ajouter qu'il y a aussi l'ethnopharmacologie.
Oui.
C'est-à-dire on est actuellement là, vous voyez, il a parlé de l'ethnobotanique, des tribus, hein, des plantes qui sont utilisées. Et ici, il a confirmé, hein, du point de vue pharmacologique, l'efficacité de ces produits.
Oui.
Donc il y a des sciences qui est développée par rapport à tout ça, toujours dans le souci de confirmer au moins ce qui est fait. Par rapport au travail que le ministère fait, nous collaborons, même notre document de politique prévoit une collaboration avec le ministère de la recherche scientifique, l'enseignement supérieur, l'environnement et agriculture, parce que c'est une matière qui est multidisciplinaire. Donc tous ces projets, le souci qu'il a de documenter, hein, et c'est dans le plan d'action, parmi les activités qui ont été retenues par le ministère pour arriver à améliorer et à ce que le pays puisse disposer des médicaments plus fiables. Ok. Maintenant, si je prends...
Oui, la préoccupation... Non, en fait, l'autre question, il y a des questions qui ont été déjà répondues, hein, qui sont revenues.
Oui, c'est puis, lui, il a parlé des endroits. Moi, je prends les aires protégées.
Oui.
Oui, on a toujours eu le souci de créer des jardins. Mais présentement, nous avons même un projet en cours, parce que nous allons travailler sur cette zone de santé, un projet pilote pour promouvoir cette intégration dans les systèmes de santé. Donc, on va aller à partir de la zone de santé, qui est l'unité opérationnelle du ministère. Et là, quand on fait le recensement, comme je l'ai dit, et qui est prévu pour toute la République, c'est pour arriver à doter le pays d'une cartographie des tradis. C'est-à-dire, on va savoir là où dans telle zone de santé il y a le tradis praticien, et l'infirmier périphérique peut aussi arriver à avoir l'information de cette médecine-là.
Et l'autre préoccupation, c'était autour de la sensibilisation de la population.
La sensibilisation, oui. Maintenant, je peux remercier le gouvernement de la République parce que nous avons une ligne de crédit budgétaire en 2013 qui nous a permis de réaliser certaines de ces activités. Et merci pour le plaidoyer des intervenants parce que vous êtes rendu compte que le pays est vaste. Nous avons à peu près 480 tribus. Donc nous avons une grande diversité de plantes médicinales.
Oui.
Nous avons beaucoup de plantes qui sont endémiques, donc propres à la RDC. Et c'est ainsi que je remercie le gouvernement parce que nous avons des lignes de crédit. Mais nous pensons que le travail est tellement énorme que nous aurons encore besoin d'un peu plus de moyens pour que même dans toutes les provinces, on arrive à faire le même travail.
Voilà,
c'est par rapport aux aires protégées, comme je le dis, notre projet qui est en cours, on va commencer bientôt, il a prévu dans les zones de santé qu'on puisse avoir des aires protégées. C'est-à-dire, on va négocier avec les autorités politico-administratives pour voir un site. Là où, par exemple, avec les utilisateurs, les tradis praticiens vont nous dire que là, on trouve un peu plus de plantes, nous allons négocier pour que cet endroit puisse être réservé aux tradis praticiens.
Voilà. Voilà, c'est presque les grandes préoccupations qui ont été présentées par les auditeurs. Mais si vous permettez
qu'on écoute... La sensibilisation est importante.
Oui.
Parce que tous ces documents, nous avons parlé de la règle de la loi, du code de déontologie.
Oui.
Nous avons parlé du plan stratégique. Et nous avons aussi même un document qui est dissipé, on va discuter aussi, un guide d'accès aux médias pour réguler l'accès aux médias des tradis praticiens.
Effectivement.
Et tous ces documents que nous avons doivent être vulgarisés. La sensibilisation est très importante parce qu'on ne peut pas promouvoir sans arriver à faire la sensibilisation.
Voilà, on écoute.
Et des tradis et des professionnels et de la population par rapport à la promotion de la médecine traditionnelle.
Voilà. Il y a Ogu qui nous appelle des Kikuites, docteur Bintou qui est à Béni. Ogu, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot, je salue aussi la dame et notre invité et tous les invités de la fréquence de la paix.
On vous écoute aussi rapidement, on tend vers la fin de cette première partie de l'émission. On vous écoute, Ogu.
Merci Pierrot, car le temps nous presse. Vous savez, monsieur Pierrot, l'époque ancestrale peut nous servir d'une époque de référence, car les parents nous racontent souvent. À leur époque, même des cas compliqués tels que hernie, ballonnement du ventre dû aux cirrhoses des foies, appendicite et que sais-je, avaient des solutions auprès d'un tradit praticien. Mais aujourd'hui, la médecine traditionnelle a perdu d'ampleur parce que, permettez-moi le terme, monsieur Pierrot, il y a beaucoup de charlatans parmi eux, que j'appelle moi nuées sans eau. Donc, excès de publicité, mais la réalité de ce qu'ils disent toujours négative. C'est pourquoi, monsieur Pierrot, j'ai aussi un témoignage, si vous me permettez.
Rapidement, oui.
J'avais vécu une station à Goungou, c'est un territoire qui se trouve dans la province de Bandundu, à 2008 précisément. L'oncle de mon ami qui avait un problème d'hernie et un tradit praticien, qui va lui dire que ne va pas à l'hôpital pour gaspiller ton argent, j'ai un produit très sûr. Après lui avoir donné un verre de ce produit-là, quelques minutes après l'état du malade devint plus pire et après quelques secondes, la personne mourut. C'est pourquoi, M. Pio, d'après moi, je vais proposer comme solution que notre gouvernement puisse penser à financer, car vous savez, vous êtes sans ignorer, mais c'est sûr que la médecine moderne dérive de la médecine traditionnelle. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'appareils d'examens pour détecter, faire des diagnostics que la médecine traditionnelle, donc que les tradis traditionnels n'en ont pas. C'est pourquoi que notre gouvernement puisse penser à donner, donc financer ces appareils-là, examiner des faits de diagnostics et des pseudo-âges des malades, et aussi qu'ils puissent établir des gens qui vont faire des contrôles pour fermer les structures, c'est-à-dire praticiens qui ne vont pas fonctionner selon les normes. C'était là ma préoccupation, mais c'était haut comme le temps nous presse. Je vous remercie.
Merci, Ogu. Désolé pour ce qui est arrivé à votre ami selon le témoignage, mais vous souhaitez qu'il y ait un contrôle pour savoir qu'est-ce que les gens font dans le secteur. Mais si vous avez suivi notre invité, dès lors que quelqu'un pourra avoir des appareils modernes dans sa pratique, il a dit qu'on ne pourra pas l'appeler tradit praticien, parce que là, il faut trouver un autre terme, parce qu'il est recours à des appareils moderne pour sa pratique, c'est un peu ça le problème. Mais merci beaucoup pour la proposition qu'il y ait un contrôle pour savoir comment les tradis praticiens sont en train de travailler. C'est pour cela même qu'il y a ce recensement qui a été lancé ici à Kinshasa pour l'ensemble du pays. Docteur Bintou, vous êtes à Béni, dans la province du Nord Kivu. Bonjour.
Bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez suivi les uns et les autres, quel est votre point de vue?
Mon point de vue est que la médecine traditionnelle en soi n'est pas mauvaise, mais elle est butée à quatre problèmes majeurs. Le premier problème, c'est la formation. Beaucoup de pratiquants de la médecine traditionnelle n'ont pas le même niveau de formation. Voilà pourquoi il y a beaucoup de difficultés pour mieux les gérer et mieux les contrôler. Donc, il faut mettre l'accent, le ministère doit mettre l'accent surtout sur la formation des tradis praticiens. Deuxième problème, c'est la technologie. La présentation des médicaments traditionnels pose problème par manque de technologie. Bon, cela fait en sorte que la conservation des médicaments puisse aussi poser problème et même l'efficacité. Un produit traditionnel peut être efficace, mais lorsqu'il est mal présenté, il va poser toujours des problèmes.
Oui.
Le troisième problème, c'est la loi qui doit gérer la médecine traditionnelle. Bon, jusqu'aujourd'hui, la loi, la médecine traditionnelle continue à être gérée avec la loi de la pharmacie de 1933. Tandis que la nouvelle loi dont parle notre invité, de 2000, qui a été élaborée vers les années 2006 jusqu'à ce jour, elle n'est pas encore promulguée, donc elle n'est pas encore d'application. Donc il faut faire des efforts pour que la loi soit appliquée, et qu'elle soit promulguée et appliquée, qu'elle soit discutée d'abord au niveau du Parlement afin d'être promulguée. Jusqu'à aujourd'hui, cette loi n'a jamais été discutée au niveau du Parlement. Nous ne savons pas à quel endroit se trouve cette loi. Le dernier problème, c'est lié à l'intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins de santé de la RDC. Le problème d'intégration pose des petits problèmes, d'abord, comme nous avons dit à l'introduction, liés à la formation. Il y a les complexes d'infériorité et les complexes de supériorité qui opposent les soignants modernes et les soignants traditionnels. Donc l'intégration et les soignants modernes n'acceptent pas l'intégration de la médecine traditionnelle, tandis que la population, elle, est prête à accepter cette intégration. C'est à ce point-là que les ministères et ceux-là qui sont chargés de la médecine traditionnelle doivent aussi travailler, de sorte à ce qu'on puisse élever le niveau de la formation des traduits praticiens pour permettre une intégration effective. Merci.
Merci beaucoup, docteur Bintou. C'est très bien expliqué. Quatre points, la formation, la technologie en ce qui concerne la présentation et la conservation de médicaments. Il faut la loi, comme on a dit, les projet, je crois bien, existe au ministère de la Santé, on en a parlé à l'introduction, il faudrait maintenant une discussion au Parlement jusqu'à l'adoption et la promulgation, ça peut résoudre le problème du secteur, mais il faut aussi l'intégration de la médecine traditionnelle, il se pose un problème de formation et des complexes, n'est-ce pas, c'est-à-dire que la relation entre le soignant traditionnel et moderne, il faudrait qu'on travaille là-dessus, vous avez insisté, parce que la population accepte facilement la médecine traditionnelle, mais les problèmes se posent au niveau de la collaboration avec ceux qui pratiquent la médecine moderne. Nous avons Alain Zawadi, on a déjà lu. Nous avons Christian Moinze qui est à Kasumbalesa, qui dit ceci. Elle a beaucoup, la médecine traditionnelle a beaucoup d'importance car elle guérit beaucoup de maladies, mais elle est défavorisée. Le message a été lu. Mais nous avons aussi Alexis Mbomi qui dit ceci. C'est bien parce que la médecine traditionnelle est infiltrée par beaucoup d'escrocs. Il faut y mettre de l'ordre. On va rapidement écouter le point d'actualité tout à l'heure des Radio Capi. On revient juste pour la conclusion avec notre invité et l'ensemble des auditeurs. Merci pour ce flash information des Radio Capi. Nous revenons avec parole aux auditeurs pour la dernière partie consacrée bien sûr à des auditeurs et la conclusion de notre invité. Je rappelle que nous parlons de la médecine traditionnelle dans notre milieu, ce qu'il faut faire pour la promouvoir, pour améliorer sa pratique. Nous en parlons avec les auditeurs des Radio Capi. Vous êtes très nombreux, mais nous avons aussi associé à cet échange Madame Micheline Kingombe, directeur du programme national des promotions de la médecine traditionnelle et des plantes médicinales, qui va tout à l'heure prendre la parole pour conclure cette émission au nom de tous les auditeurs. Le temps de lire rapidement ce message de Papi Mouré-Bois, de Nyangezi au sud, qui dit ceci. Pourquoi les tradis praticiens se transforment toujours en guérisseurs avec le temps? Pourtant, dans mon milieu, beaucoup croient plus à la médecine moderne qu'à la médecine traditionnelle, d'où une tendance à voir les tradis praticiens disparaître. Mustapha Bin Saïd Yagoma, c'est vraiment bizarre pour lui. Il trouve qu'il beaucoup exagère. Ils disent qu'ils guérissent toutes les maladies, juste même à guérir le VIH-Sida. Joël Moga à Guémena, à l'Équateur, il dit qu'il sera difficile de réguler ces secteurs parce qu'à Guémena, par exemple, certains disent guérir toutes les maladies, donnent des médicaments sans consulter les gens. Et je vois que ça sera difficile de pouvoir réglementer les secteurs parce qu'il y en a beaucoup qui est sur qui comme ça à Guémena. John Akili Kalimbiro de Goma au Nord Kivu, certaines personnes utilisent ces secteurs abusivement. Il faut encourager le recensement, mais aussi les lois qui doivent réglementer les secteurs pour éviter que d'autres personnes puissent abuser la confiance de la population alors qu'ils n'ont pas les connaissances traditionnelles requises pour soigner. Omer Bright Munda de Kananga, la pratique de la médecine traditionnelle a atteint son paroxysme. Nous constatons que la plupart des familles dans mon milieu négligent déjà la médecine moderne et ont toujours un penchant vers la médecine traditionnelle. Plusieurs personnes nous disent que c'est un pas important pour le Congo de demain. Jules Géry au Nema, à Lubumbashi, je crois qu'il y a d'abord à définir ce que c'est médecine traditionnelle et guérisseur, sorcellerie, parce qu'ici chez nous, les médecins traditionnels sont comme des sorciers en dessinant sur leurs panneaux publicitaires des sirènes avec trois yeux, trois seins ou une image qui représente un démon avec quatre cornes. C'est triste pour nous qui sommes en ville où tous ces féticheurs veulent avoir une voiture pour s'enrichir. Et enfin, Serge Bengué Berton dit, moi je crois plutôt que la santé ne doit pas être un prétexte des commerces, que les pratiquants de la médecine soient contrôlés par le ministère de la Santé pour éviter de fausseurs des troubles, que ce soit pour la médecine moderne ou la médecine traditionnelle. Albert, vous êtes à Kananga, on va peut-être conclure avec vous, s'il y a peut-être un dernier auditeur. Vous êtes avec nous, Albert, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
On vous écoute rapidement, en deux minutes, parce qu'on est déjà en train de terminer cette émission.
Pour terminer, monsieur le journaliste, moi j'aimerais tout simplement souligner au niveau des traitements des pratiques, j'ai remarqué que lorsque vous allez un peu chez lui, là, je n'arrive pas à comprendre comment ils font les histoires chez les autres. Vous arrivez comme ça, il n'y a pas quelque chose qui peut permettre que ça doit justifier donc la maladie. Il commence à deviner, peut-être, vous avez telle ou telle maladie. Je ne sais pas que par quel moyen qu'on peut vraiment découvrir ces genres de maladies. Maintenant, pour terminer, M. Jarrett, j'aimerais poser une petite question parce qu'on est presque vers la fin de notre émission, à notre émission. La première, quelle est la grande problématique de la pratique de la médecine traditionnelle et son impact dans notre pays? Faut-il nécessairement donner confiance à la médecine traditionnelle? Si oui, quelle sera alors la médecine moderne?
Mais là, Albert, si vous avez suivi l'introduction avec notre invité, elle a expliqué presque tout ce que vous venez de poser comme question. On est déjà à la fin. Elle a expliqué l'importance de la médecine traditionnelle, son intégration au niveau du système des soins de santé dans notre pays et les degrés de collaboration entre les deux médecines. Elle a beaucoup insisté tout au long de cette émission. Si vous auriez suivi depuis le début, d'ailleurs, c'est pas raté parce que pendant la rediffusion à 20h, vous pourriez encore bien suivre ces réponses qui ont été données par rapport à ces questions que vous avez posées. Le dernier auditeur, c'est Joseph qui est à Bukavu. Bonjour, Joseph.
Oui, bonjour. Merci de m'avoir accordé la parole.
Oui, Joseph, voilà, on a perdu Joseph directement. Nous allons accorder la parole à notre invité, Madame Micheline, pour conclure cette émission. Vous avez suivi les uns et les autres, les questions ont été presque les mêmes, mais il y a eu aussi beaucoup d'explications que vous avez données, beaucoup de propositions aussi. Hein. Je crois que ce n'est pas la dernière émission, on pourra revenir parce qu'il y a autant de choses qu'il faut évoquer autour de la médecine traditionnelle et sa promotion, mais aussi c'est une façon aussi pour nous de pouvoir sensibiliser les uns et les autres, hein, sur l'importance de cette médecine, les mesures, les décisions qui sont prises au niveau du pouvoir public pour aider à améliorer les secteurs. Il y a beaucoup de choses qu'on pourra encore aborder prochainement, mais pour aujourd'hui, ce que les uns et les autres ont dit et ce qui s'est fait au ministère de la Santé, en conclusion, qu'est-ce que les auditeurs peuvent retenir par rapport à la promotion de la médecine traditionnelle? Et voilà, là on a perdu carrément un autre invité. Je crois bien qu'on a perdu Madame Micheline Kingombe. Je crois bien qu'on l'a perdu alors qu'on pouvait tenter d'avoir la conclusion. Et avec elle, je peux revenir encore à quelques auditeurs qui nous ont écrit, comme Sylvie Ntumba qui dit ceci. C'est bien pour éviter des imaginations auprès d'autres soi-disant médecins traditionnels. Il en va de notre santé. C'est par rapport à l'ordre qu'il faudrait mettre dans les secteurs, le recensement, les lois qu'il faut pour réglementer les secteurs de la médecine traditionnelle. Ntumba pense que ça doit être bien pour éviter, pour protéger la population. Mais il y a aussi cette proposition de notre ami Christophe Moinzé qui dit ceci. Il y en a qui sont installés dans des cellules qui sont très sales. Les autres se promènent avec leurs soi-disant produits ou médicaments et ils n'ont pas d'infrastructures adéquates. Il faudrait les doter de moyens pour permettre à ce que les endroits qu'ils occupent puissent être propres, et comme ça peut attirer la population. Voilà un peu le point de vue de Christophe Moinzé de Kasumbalesa. Je rappelle encore, je crois bien que nous avons notre invité pour la conclusion. Voilà, merci d'être avec nous, Madame Micheline. Juste en deux minutes pour conclure cette émission. On a écouté les uns et les autres, les efforts fournis au niveau du pouvoir public. Qu'est-ce que les auditeurs peuvent retenir en ce qui concerne, en dernier ressort, la promotion de la médecine traditionnelle en deux minutes?
en deux minutes. Je remercie Radio Capi ainsi que tous les intervenants. Je voulais les rassurer que le pays a souscrit à répondre à la stratégie régionale pour la promotion de la médecine traditionnelle et qu'actuellement le gouvernement de la République a donné une ligne budgétaire au programme. Merci pour leur plaidoyer pour qu'on puisse nous aider à avoir un peu plus de moyens pour arriver à répondre à tous ces besoins pour la promotion. Mais ce que je veux dire, c'est que le ministère a pour mission d'organiser la médecine traditionnelle.
Mmh.
Donc par rapport à ça, il y a parmi les structures organisationnelles, il y a une structure des tradis praticiens qui est le Conseil national des tradis praticiens,
mmh.
qui a été mise en place depuis 3 ans. Mais actuellement, nous sommes en train de travailler avec l'équipe des tradis sur par rapport aux recommandations de l'atelier de validation des textes réglementaires qui a eu lieu la semaine passée. Alors nous sommes en train de préparer un projet de décret portant organisation et fonctionnement de ce Conseil national des tradis praticiens
mm-hmm.
qui est tenu à constituer, c'est une structure qui constitue l'organe de l'éthique et de la déontologie pour les tradis praticiens. Elle a pour rôle de réunir les différentes associations des tradis praticiens à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, comme on le dit au ministère, donc jusqu'au oui. niveau local.
Mmh.
Je pense que toutes ces préoccupations trouveront leur réponse quand on aura déjà, avec le ministère de la Santé, si on arrive à mettre en place tout ce cadre, tous les textes sont là, on arrivera à le faire.
Mmh,
le ouais. ministère a aussi une loi cadre qui reconnaît aussi le tradit praticien et la médecine traditionnelle dans le pays. Et notre loi ici, c'est une loi sectorielle.
Mmh.
Okay.
Voilà, merci
Les
beaucoup.
Activités de recensement
mmh.
vont aussi nous aider à identifier les problèmes qu'il y a dans ce secteur et surtout à identifier les tradis praticiens. Et il y a un site web qui sera créé et les données sur les tradis praticiens et tout ce qui a trait à la médecine traditionnelle seront disponibles pour tout le monde.
Mmh.
Nous avons aussi un projet d'intégration de la médecine traditionnelle dans cette zone de santé, ce qui fait que d'ici 2 ou 3 mois, nous arriverons quand même par rapport aux 7 zones ciblées.
Merci.
Mais nous avons prévu l'année prochaine ajouter d'autres zones. Donc, c'est toujours pour améliorer la qualité des services, améliorer la qualité des médicaments traditionnels.
Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame Micheline Kingombe, d'avoir accepté vraiment notre invitation et accordé aux auditeurs des Radio Capi 7 ans pour expliquer le travail qu'est fait le ministère de la Santé par rapport à la promotion de la médecine traditionnelle. Vous disons sincèrement merci. Merci aussi à tous les auditeurs qui nous ont suivis chez eux. On va se retrouver demain jeudi pour un autre numéro des Paroles aux Auditeurs.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
On prend rendez-vous demain à 11h30 heure de Kinshasa. L'héritage provoque souvent des conflits dans beaucoup de familles dans la société congolaise, avec parfois des cas d'érigés automatiques du testament d'un défunt par les membres de sa famille. Une situation qui préjudicie souvent le veuve et orphelin et est aussi à la base de l'aggravation du phénomène enfant de la rue dans certaines villes. Nous en parlons avec vous demain. Que proposez-vous pour respecter la répartition de l'héritage tel qu'est prévu par la loi demain à 11h30? Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Titine Poutou, Nadine Foula, Jean-Claude Nessiala qui ont été à la réalisation, Ben Kabamba à la supervision. Cette émission rediffusée à 20h30 heure de Kinshasa, mais aussi sur www.radiocapi.net. Merci, au revoir à tous.